what you do?
You'll shoot your eye out,
kid. 我々は生きている。
我々は紛れもなくここに生きている。しかし人間はそれを認めようとしなかった。それどころか、目にも余る残虐な手を尽くして我ら同胞の命を排除。裁きを下す者のごとく、あたかも彼らがその権利を有するかのごとくだ。生きるという切実なる思いに優劣などあろうか。ただ一つの生を謳歌する言葉の重みに優劣などがあろうか。ない。あるはずがないのだ。しかし人類は目に見えぬ天秤の上に我々を乗せた。それが仮に彼らの権利だというのなら逆もまたしかり。
Bonjour, vous êtes bientôt à tester l'émission qui vous plaît, la notion de cinéma sur 107.5. Bon FM.
Oui, alors évidemment, vous l'aurez reconnu, hein, c'était Bruce Lee, voilà, célèbre imitation, hein, formidable, s'il n'en est du cinéma hongkongais. Alors, vous l'aurez tous donc compris, chers auditeurs et chères auditrices de ATC 107.5.fm, nous allons parler des musiques des films asiatiques. Alors, surtout dans la veine hippique, hein, hippique, épique et collégramme, dont nous avions déjà d'ailleurs parlé avec mon cher camarade Monsieur Bounty, et que vous pouvez retrouver cette émission sur le www.rdibois.fr dans le broadcast émission thématique. Alors nous allons commencer sur des chapeaux de roue avec le film Héros de Yang Yimou, qui se passe durant la période des royaumes conquérants, là où la Chine était divisée en 7 royaumes. Et c'est justement le roi de Xi qui décide d'unifier ces nations. Alors il faut savoir que c'est d'ailleurs ce roi Xi qui va donner le nom Chine. Vous savez, c'est le fameux roi qui avait fait un énorme tombeau avec des cavaliers, avec des soldats en argile. Comme il y va un petit peu pas avec le dos de la cuillère, il se trouve évidemment des adversaires sous les noms plus que fantastiques Ciel étoilé, Lame brisée et Flocon de neige, qui décident de l'assassiner. Malencontreusement, on apprend qu'ils ont été battus par un homme qui s'appelle Sans Nom, un guerrier qui se présente à ce fameux roi de Xi et lui conte l'histoire. Alors, ce film est une poésie formidable, rien qu'au niveau des couleurs, parce que chaque histoire qui est contée a une couleur propre, rouge, blanc, bleu, vert. Il y a aussi une philosophie, parce que ça, il faut savoir que dans les films chinois et japonais, il y a souvent une grande philosophie, bon, il y aurait peut-être plus chinoise, où finalement, l'individu n'est rien vis-à-vis de l'union, vis-à-vis du pays, vis-à-vis de la communauté. Et c'est vraiment fantastique, on n'est pas là dans la happy end, c'est vraiment, vraiment un film fantastique que je vous conseille. Ensuite, il y a deux films japonais pour l'occasion de Kazukai Kiriya. Donc, Kaz-Ern qui se passe dans un futur post-apocalyptique où l'Asie et la Russie sont unies et où l'élite règne sur un territoire plus que pollué. Et là, il y a un chercheur qui trouve un remède pour ne pas vieillir malencontreusement par, évidemment, une erreur comme il en convient dans le cinéma. Il réveille les morts et ceux-ci décident de se venger et de détruire la nation des hommes. Il faut savoir aussi que dans ces morts, il y a le fils de ce chercheur et qui décide, lui, de justement lutter contre ces morts vivants, entre guillemets. Là aussi, un fatum, c'est-à-dire on se trouve presque dans un drame grec, voire même dans un Hamlet. C'est un film presque d'animation, tant les images sont travaillées. Alors pour l'occasion, là, c'est un groupe de Tokyo Black Horn qui va chanter le fameux Requiem de Kaz-Ern. Donc les paroles sont en japonais. Comprend qui peut. Ensuite, on parlera de Goemon, hein. Donc toujours de Kazuaki et Kiriya, avec une musique de Akihiko Matsumoto. Ah oui, là, pour se perfectionner au japonais, c'est de première. Donc, il raconte l'histoire de Goemon, le prince des voleurs, qui était un ancien garde du corps de Dame Chacha. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce film se passe pendant la période Sengoku, donc au 16e siècle. Et donc, cette Dame Chacha n'était autre que la nièce de Nobunaga Oda, hein, qui est donc l'un des premiers unificateurs du Japon. Et celui-ci a été assassiné. Goemon découvre une boîte un soir en volant, un bourgeois, et là, dans cette boîte, c'est vraiment la boîte de Pandore, puisqu'il y a là le secret qui peut faire écrouler le destin de l'empereur en place, Toyotomi Hideyoshi, qui est là aussi, pour le cas, un empereur qui a réellement existé, et celui-ci va lui envoyer son homme de main, Saizo, qui n'est autre que le camarade d'entraînement de Goemon. Tous deux ont été entraînés par Hattori Hanzo. Alors Hattori Hanzo, c'est comment dire, c'est le roi des ninjas, c'est vraiment la personnification des ninjas. Et d'ailleurs, Quentin Tarantino a utilisé ce nom, puisque c'est lui qui est le fameux maître des sabres dans Kill Bill. Alors là aussi, c'est destin tragique, c'est Fatum. Franchement, il est à voir.
Thank you.
Ensuite, on attaquera Oui joue la légende des cavaliers du vent de Shen Kaige, l'histoire de Qin Sheng, donc une petite fille qui meurt de faim sur un champ de bataille et qui se trouve en face de la déesse Man Shen, qui conclut un pacte avec elle, c'est-à-dire qu'elle sera effectivement aimée par les hommes les plus puissants, mais si jamais elle aime, eh ben l'homme sera perdu, sauf s'il se trouve quelqu'un capable de faire retourner le temps. Et c'est là où cette fameuse Qin Sheng rencontre Kulun, qui est un esclave qui fait partie d'une tribu dont les hommes sont capables de courir plus vite que le vent. J'attaque vraiment le plus lourd, Tigre et Dragon d'Ang Lee, avec une musique de Tandun. Alors il faut savoir que Tandun avait aussi fait la musique de Hero, hein, donc voilà, c'est Tandun 1 et Tandun 2. Donc c'est l'histoire de deux grands amis, hein, Li Mubai et de Shen Lien, qui est joué ici par Michelle Yeoh. Donc Li Mubai décide de prendre sa retraite, confie son épée destinée à son ami Xu Lien, et en fait celle-ci va la déposer chez un gouverneur, rencontrer une jeune femme, Yao Lang, qui n'est autre que Yang Yi, hein, la comédienne. Et celle-ci va lui voler l'épée puisqu'elle est embrigadée par la fameuse Jade la Hyène. C'est un super film et c'est d'ailleurs, je pense, le précurseur de ce genre de film. Enfin, ça existait en Chine, il est vrai, mais vraiment, il y a eu un tel impact international que la Chine, depuis, n'arrête plus de faire des films comme ça, avec des budgets de plus en plus monstrueux, parce qu'elle a quand même une histoire plurimillénaire et que effectivement, je crois qu'elle peut aisément se lancer dans ce thème. Ensuite, il y a Seven Swords, qui est un film un peu plus léger, hein, un film hongkongais de Tsui Hark en 2005, avec la musique de Keiji Kawai. Donc, dans la Chine féodale du XVIIe siècle, un seigneur local décide d'interdire le kung-fu, les arts martiaux. Voilà. Et pour ce faire, il décide d'engager une bande d'assassins qui décapitent des gens puisqu'il faut récolter des têtes, hein, et que chaque tête a son prix. Et là, il va se trouver en face de 7, non pas mercenaires, mais 7 porteurs de sabres, et chaque sabre a son pouvoir. Voilà, c'est un bon film. Et voilà, donc avec la musique donc de Kenji Kawai, qu'on avait déjà eu dans l'émission musicale sur Halloween, puisque c'est lui qui avait fait le Dark Water et qui avait aussi fait pour la série Apocalypse, hein, qu'on avait vu sur France 2.
We'll be right back.
Ensuite, on retourne avec Monsieur Yang Yimou en 2004 avec Le secret des poignards volants. Donc à l'époque, en 856, à la fin de la dynastie Tang, et oui, encore l'histoire, hein, un groupe de bandits donc, qui se font nommer les poignards volants et qui volent évidemment aux riches pour donner aux pauvres. Voilà, leur chef est assassiné. Et donc, il y a une enquête. On a le capitaine Léo et son jeune lieutenant Yin qui décident de savoir qui est ce groupe. Et donc, pour ce faire, ils vont aller à la rencontre de la fille de ce chef assassiné qui est aveugle. Mais là, évidemment, il y a un secret qui est bien caché. Donc, la musique est de Shigeru Umebayashi. Là, je me suis fait plaisir. Rien qu'avec les noms, je me suis fait plaisir. Et en dernier, puisqu'il faut vraiment un dernier, j'ai évidemment, qui c'est pas le compositeur le plus connu, mais je pense qu'il a vraiment un impact, et notamment un célèbre duo, je veux dire une amitié sûrement, avec un des plus grands réalisateurs japonais, c'est Joe Hayashi. Et donc le réalisateur n'est autre que évidemment Miyazaki. Hein. Donc là j'ai pris la musique de la princesse Mononoke, qui se passe durant l'époque médiévale au Japon, hein, l'ère Muromachi. Donc l'histoire du prince Ashitaka de la tribu des Emishi, et donc qui est frappé par une malédiction suite à son combat avec Nago, un dieu sanglier qui est possédé par le démon et qui va partir à l'ouest et qui trouvera une guerre entre deux femmes, dame Eboshi et ses forges et la fameuse princesse Mononoke San et qui a été élevée par la déesse Louve Moro, Jeanne Moro. Et évidemment dans l'œuvre toujours thématique de Miyazaki, la rencontre entre la civilisation et la nature avec ce dieu cerf et dame Eboshi avec ses forges, ses léproseries, ses prostituées et évidemment l'empereur qui lui veut la tête du dieu cerf pour là aussi être éternelle. Et il faut savoir que d'ailleurs, bientôt sur les écrans, il y aura le dernier, sans doute, je pense le dernier, Miyazaki, Le Vent se lève, hein, l'histoire d'un ingénieur, d'un jeune ingénieur qui décide de construire des avions, je pense, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, et sans doute l'œuvre la plus réaliste de Miyazaki, puisqu'elle ressemble plus au tombeau des Lucioles de Takahata que à la Princesse Mononoke ou le voyage de Chihiro. Et là aussi, il y a évidemment la musique de Joe Hayashi. Voilà, et ensuite, après, ben, ma foi, nous attaquerons le pestel avec mes chers camarades Anna et Monsieur Bounty. Et n'oubliez pas que vous êtes toujours sur RDWA 107.5 FM.
C'est moi passé au rocher après donc cette émission sur le sport asiatique.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. C'est génial avec nos trois animateurs.
Bonsoir,
donc,
Naël.
Bonsoir. Alors, t'as passé un bon week-end ?
Parce que t'as vu, on nous a raccourci notre temps d'antenne.
Voilà.
Toute restriction budgétaire.
Oui, oui, c'est la crise, mais...
Pas pour le producteur, apparemment.
Oui,
ça bah... met plein les fouilles, hein.
Bah, moi, je passe...
N'est-ce pas, M. Quinn ?
Oui.
Ouais, passé un bon week-end ?
Je vais t'en faire bouffer de la terre promise, moi, tu vois. Ça va être quelque chose de violent.
Il est un peu bronzé, non ?
Non, on ne dit pas
lui,
bronzé.
Non.
On ne dit pas bronzé, s'il vous plaît.
Il a été fourci.
Ouais.
Mais non, mais
quand t'as dit fourci,
bon
t'as
week-end.
Tout dit.
C'est la blague. Vous avez passé un bon week-end ? Oui, parce que vous avez vu que j'étais bronzé. Comme on est à la radio.
Ah d'accord, tu es à la
Deauville. Voilà, tu étais à Deauville.
Ouh, t'as encore sucé du clown, toi, ce soir.
Ce soir, t'as sucé du clown, c'est pas français.
Si, si.
J'ai sucé du clown.
Passé composé.
Décomposé.
Toi aussi, tu voulais dire sucre, mais t'as oublié
c'est
le
c'est ça, air. Ouais, voilà, c'est ça.
Toi aussi, t'as mangé du sucre.
J'ai sucré mon café.
C'est pour ça que t'as de belles dents. Dents blanches. C'était un moment de l'Union française de la société bucco-dentale.
De l'hygiène bucco-dentaire, s'il vous plaît.
Oui, toujours bien se brosser les dents
et
après
c'est
un morceau de sucre.
Ah oui. C'est vrai. Et voilà.
Je passe pas du tout pour la potiche aujourd'hui.
Messieurs, dames, nous avons une potiche.
On parle pas de potiche.
Tu aimes bien être arrosé ?
Minutes, ils sont pas sortis pour se faire examiner par un médecin assermenté. Ça va se terminer en drame pour eux et en Pôle emploi pour vous. C'est clair !
Madame, je vous dis un truc franchement. Mais alors franchement, je m'en tape. Mais alors, je m'en tape un point. Mais c'est violent en plus. Allez, ciao la mise météo.
Et donc, les films du Pestel cette semaine.
Alors, il y a deux
films. Trois films.
Ah oui, trois films, ok, bon bah vas-y.
Qu'est-ce que t'as pensé de Thor ?
J'ai raison. Hein ? Bah écoute, c'est un film divertissement, grand spectacle,
voilà.
Qui est mieux que le 1.
D'accord.
On a vu son torse.
On a vu le torse de Thor.
Super, hein, tu en baves encore, non ?
J'en bave encore,
non, pas du tout.
Bon, attends, t'as dit ça tout le long.
Les
t'as
gens...
envoyé des SMS et tout.
Non, c'était Manon qui envoyait des SMS, c'était super relou d'ailleurs. Ouais.
Ouais, grave, elle est relou, on l'amènera plus.
On l'amènera plus au cinéma. Non, okay. Mais.
Spécial dédicace !
On a vu le torse de Thor, ouais, mais c'est surtout que, en fait, quand on a vu le torse de Thor, on a hurlé qu'on était venu que pour ça et les filles à côté de nous l'ont un peu mal pris, je crois.
C'est vrai ?
Ouais.
Pourquoi ?
En fait, parce que Manon, elle a dit bon, bah c'est bon, on peut aller fumer notre clope.
C'est
c'était
nul,
pas très délicat,
ça.
Voilà. On n'a pas vraiment aimé le film, en fait.
Pourquoi vous êtes venus ?
Bah, pour vous voir. Et le torse de Thor.
Mais le torse de Thor, il était en bande-annonce. Il suffisait juste de regarder la bande-annonce.
Non, mais c'est important de se tenir au courant des avancées des Avengers. Non, ce qui est choquant, c'est que les copains
c'est
sont,
pas,
pas,
sont
venus.
Pas venus.
Les copains sont pas venus.
Ouais, mais ils avaient mieux à faire ailleurs. Il y avait New York
oui,
et tout.
Ouais, ils n'étaient pas à l'heure anglaise. Ils n'étaient pas à l'heure de Greenwich.
Non, mais je comprends que ce soit l'histoire de Thor et qu'on ne foute pas Avengers dedans, mais...
Bah après,
si,
il faut
payer. Captain America.
Et oui, voilà.
Ouais, mais enfin, c'est pour la blague.
Oui.
Il c'était pas vraiment Captain America, c'était son image. Bon, de toute façon, on en parle puisque si vous l'avez
c'était
pas vu, c'est que vous êtes nul.
Quoi ?
Pardon ?
Conversation de sourds.
C'est intéressant quand même. C'est très intéressant.
Donc, le premier film, Monsieur Gwen, Histoire de ma mort.
Oui, Histoire de ma mort de Albert Serra. Qui est Serra ? Serra. 2h28, hein, quand même, les gars. 2h28.
Accroche-toi, c'est pire que la vie d'Adèle.
Ouais, non. Oui. C'est un film crépusculaire.
Pas que mieux. Et du cul aussi. Non. Casanova, alors, qu'est-ce que c'est, monsieur ?
Casanova, mais...
Non, mais le synopsis.
Le synopsis ! Eh bien, en fait, c'est l'histoire de Casanova qui quitte la Suisse hein, et qui va dans l'Europe septentrionale finir ses jours.
Mais Casanova, il n'était pas italien ?
Qu'est-ce que c'est l'Europe septentrionale, monsieur ?
C'est l'Europe du Nord, monsieur.
Du Nord ?
Oui, du Nord. Oui, parce qu'il avait
parce qu'au Nord ?
Il y a les corons, oui.
Bien.
Et non, non.
Les références.
Et alors ?
T'as passé la matinée avec
ch'tis.
Ta mère ?
Non, avec un bonnet rouge.
D'accord. Casanova.
Oui, parce qu'il avait été viré de Venise, de la République de Venise.
C'était un trop gros.
Oui, bah, oui
c'était
il avait un trop gros. Oui.
C'était un ambassadeur
aussi,
et surtout
un morceau de sucre.
Oui. C'était donc un ambassadeur
ça,
et aussi un agent des services secrets.
De sa majesté.
Mmh.
C'est ça.
Dum, 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 dum.
Et donc, selon l'histoire vraie, il aurait fini bibliothécaire. Bibliothécaire,
ah.
Voilà, c'est ça. Chez le roi des Tchèques.
Waouh.
C'est toi qui l'as dit, ça.
Oui, c'est moi qui l'ai dit.
Et qu'est-ce que Dracula
et donc,
vient faire
ouais,
film,
qu'est-ce
alors
que c'est cette histoire d'histoire de ma mort
en fait, non, en fait, c'est très simple. Parce qu'Albert Serra voulait enfin fait la rencontre de la fin du XVIIIe siècle, l'âge des Lumières, donc représenté par Casanova, la pensée rationaliste et évidemment légère libertin, avec la rencontre plus violente et surtout précurseur des romantiques du XIXe siècle. Donc voilà. Donc c'est la rencontre de Casanova et de Monsieur Dracula. Puisque la Valaquie, le royaume de Vlan de la Pâleur n'est pas loin de la Tchéquie.
Mais ils sont potes ou comment ça se passe?
Non, en fait, c'est la confrontation des deux.
Ils ne sont pas du tout sur le même terrain. C'est pour ça
mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui n'arrête pas, entre guillemets, de rigoler et que l'autre... C'est quand même un film sérieux. Hein. Quand je dis rigoler, on n'est pas dans American Pie. Hein.
On peut quand même le qualifier de cinéma intellectuel. Quand même.
Voilà, tout à fait. Et je pense que les images se rapprochent très près de Barry Lyndon.
Il y a
vraiment un film crépusculaire. Parce que le monsieur a dit, Albert Serra, hein, je le cite, c'est un film sur l'hypocrisie. On ne sait jamais ce que les personnages désirent vraiment. Étrangement, on ne sait jamais jusqu'à quel point ils restent passifs et fatalistes et à partir de quand ils deviennent calculateurs. Je voulais faire un film sur la nuit et j'ai finalement réalisé un songe sur les désirs que la nuit recouvre de ses artifices mais que le jour découvre à la lumière.
Eh ben, dis donc.
Donc,
formidable.
Non, on veut dire, on en ressort avec des sensations...
Ok.
Merci.
C'est-à-dire que c'est un film déroutant, surtout, hein, on peut le dire, et exigeant.
Déroutant mais exigeant.
Ça veut rien dire.
Envers le spectateur exigeant.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça nécessite aussi... c'est un film ardu. Hein. C'est-à-dire que en tant que...
Ardu.
Âpre. Acre.
Acre.
C'est-à-dire que quand tu t'es reposé pendant Thor, et ben là, il va falloir que tu bosses, mon petit pépère.
Ah ouais, c'est ça, ouais. Il faut s'y attaquer.
Voilà, c'est ça.
Ok.
Les garçons, Guillaume.
À table.
Ouais, bien.
Deux et avec Guillaume, donc eux.
Galienne.
C'est bien.
Superbe, d'ailleurs.
Et avec Nanou Garcia, André Marcon et Françoise Fabian.
Encensé par la critique, ça fait une semaine que sur toutes les radios ils en font l'apologie quoi.
En ce moment c'est la marche aussi qui arrive à fond là.
Ouais, mais du coup comme on parlait de Guillaume à table,
c'est-à-dire qu'il y a alors pour revenir à ce film, il y a quand même un mélange de théâtre et de cinéma parce qu'il faut savoir
Guillaume Gallienne.
Oui,
en
mais
plus.
Parce que Guillaume Gallienne est membre à part entière de la Comédie française.
Il a été primé plusieurs fois.
Qu'est-ce que ça veut dire, membre de la Comédie française?
Et ben,
c'est une histoire tout autour.
Je sais, moi, mais est-ce qu'on peut expliquer?
Non, on n'a pas le temps.
Non, mais si. Parce que regarde, dans un générique, des fois, tu as des acteurs, et après, quand ils sont membres de la Comédie française, ça figure à côté de leur nom.
Oui, tout à fait. Parce qu'ils sont membres à part. C'est-à-dire que. C'est comme si tu étais un fonctionnaire du théâtre.
D'accord.
C'est-à-dire que tu rentres dans une structure, tu es payé et voilà, tu n'as plus une histoire de cachet. C'est vraiment que tu fais partie de l'institution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en font partie mais qui ne jouent jamais.
Qui?
Je ne donnerai pas des noms.
Si, tu donnes des noms.
Non, je ne donne pas des noms.
Mais il faut.
Robert
Hossein. C'est quoi? C'est un examen? C'est un concours? On tente le concours de la Comédie française?
Non, je crois qu'il y a un concours, mais je pense qu'il était aussi appelé. Hein.
C'est-à-dire très bien. Tu es appelé à passer le concours?
Non, tu es appelé. Si tu es pote 2, tu connais pote et tu. Voilà.
Cité, quoi. Je pense qu'on.
Électricité.
Je pense qu'il y a quand même des examens. Je pense pas que tu arrives comme ça. Les deux.
T'as dit qu'il y avait pas besoin de faire du théâtre pour en faire partie?
Il a fallu que t'en aies fait à un moment quand même.
Oui, quand même.
Il eût fallu que t'en aies fait à un moment.
Et d'ailleurs, puisqu'il faut savoir que dans le film, Guillaume Gallienne joue le rôle de sa mère.
Oui, tout à fait. Mais c'est
ça
un nouveau procédé.
Sous une couette, non?
C'est un nouveau procédé hyper, hyper novateur qu'a utilisé Stromae au Grand Journal dernièrement. C'est de pouvoir faire jouer le même acteur. Deux personnages différents et sur la même scène.
Voilà,
ça...
c'est ça.
Bon,
c'est vraiment la crise.
Et c'est pour être vraiment dans le rôle de sa mère. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans Tootsie ou Madame Doubtfire. Hein. On ne joue pas un homme
qui joue une femme.
C'est vraiment
il joue sa mère dans l'histoire.
Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au printemps prochain, Monsieur Gallienne va jouer Lucrèce Borgia, hein, l'héroïne de Victor Hugo, sur scène dans la Comédie française. Juste.
Tiens, fait de la pub, toi, de la comédie. Tu es aussi ou quoi?
Ouais, t'es rentré dans la comédie?
Non, c'est la comédie qui me rentrait dedans.
Donc il faut savoir quand même qu'il a eu le prix Michel Dordano donc du festival du cinéma US à Deauville en 2013.
Oh la classe.
Lauréat du Valois d'Or et du public donc Angoulême en 2013 et lauréat du Act Cinema Award.
Ah, alors,
et du prix SACD à Cannes 2013. Aussi.
Alors, le synopsis tout de même.
Bah, c'est son histoire, non ?
C'est son histoire, évidemment, de cette mère de dragon qui le pousse parce qu'elle le sent efféminé et elle va le pousser à faire son coming out. Alors que,
mais c'est ça. C'est
que... Alors que non, lui, il va vouloir faire son coming out, mais hétéro.
Ah bon ?
C'est
ah, j'avais pas suivi.
C'est coming out.
Hétéro.
Le coming out, c'est l'acte pour les personnes qui se sentent homosexuelles de l'annoncer voilà, à la face leur... du monde. Mais je. Ah, tu vois, j'avais pas vu les choses. Pour moi, il était.
Non, c'est sa mère qui
de a l'autre
décidé.
Côté de la rivière.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'il se représente comme un être efféminé vis-à-vis de
Kevin
ses.
Kevin Costner et au milieu, Coulin. Non.
Oh.
Non, ça, c'est. Brad Pitt. C'est-à-dire que lui, il est efféminé et donc tout le monde. Va se dire, bon, bah voilà, il est gay, donc on va aller vraiment dans ce sens-là. Elle va le pousser, alors que...
Donc c'est encore un film sur l'homosexualité ? Mm-mm. Je crois que ça va me gonfler.
Quoi ?
Mais
je croyais que c'était avec ses frères à table, ils se battaient, quoi.
Moi, je croyais que c'était une histoire d'enfance et de... Mais je pensais pas que c'était axé là-dessus, tu vois.
Si.
Je suis un peu
moi,
déçu.
Tu regarderas...
Pourquoi
j'ai
mais
mis
t'as
la...
pas vu la bande-annonce ?
J'ai mis la bande-annonce, justement, si. Sur la page Facebook de ATC.
J'aime beaucoup la bande-annonce quand elle lui montre l'homme là, qu'elle a choisi pour lui.
Oui,
et
voilà.
Elle lui dit en même temps, tu as toujours eu peur des chevaux, ça ne surprend pas.
C'est quand même, donc le thème du film, c'est quand même le malentendu identitaire, quoi.
Voilà, c'est ça.
On est d'accord. Bon,
c'est quand même un premier film et un coup de maître, on peut dire.
Ah oui, moi je trouve.
Pour l'instant, coup de maître. Film. Après, on n'a pas eu les critiques publiques. Hein. Il y a toujours ce petit doute. C'est-à-dire que quand la critique en sens, ok, mais est-ce que le public suit ?
Oui, non, mais je pense que oui. Bah, on va dire quand même que c'est une comédie schizo qui est menée avec brio.
Quel
beau rire !
On ira voir ça la semaine prochaine.
Oui,
c'est
oui,
cela.
Certainement.
Donc le troisième film, donc ça sera le retour de 9 mois ferme pour les ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister.
Ah bon,
il y
parce
aura deux
y a
séances.
Il y a eu tellement de.
Oui, il y a des gens qui sont restés sur le panneau.
C'est quoi le sujet de la semaine prochaine ?
Bah, je sais pas.
J'en profite d'ailleurs pour rendre un hommage à Mr. George Lautner.
Oui,
qui sera donc notre sujet de la semaine prochaine.
Merci.
Ciao. Was
convincing the world he didn't exist. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
You talking to me?
Say hello to my new friend!
I wanted to learn. Oh, God. Go ahead. Make my day.
I love the smell of napalm in the morning.
Life is like a box of chocolates.